Donc, en fait, j'ai travaillé à la mise en place à Gênes, sur les territoires, des structures alternatives. Et j'ai vu sortir ces gens de l'hôpital psychiatrique. Donc, c'est très étrange, en fait, qu'après, moi, je me retrouve dans cette aventure aussi, parce que je n'avais pas prévu de m'y retrouver non plus. Voilà. Donc, en fait, j'ai traduit le premier livre que j'ai traduit d'Alda Merini, et c'est le premier livre qui a été traduit en France, parce qu'il y avait eu quelques anthologies, etc. C'est « Après tout, même toi ». Donc, en fait, ça s'est passé comme ça. C'est un ami qui est psychiatre et que moi j'ai connu dans ces années-là, et on s'est retrouvés en fait, et qui m'a demandé un jour « S'il te plaît, traduis ce livre ». Alors bon, lui, j'avais déjà traduit des choses pour lui, etc. Donc il savait que peut-être je pouvais être en mesure de le traduire. Et il m'a dit « S'il te plaît, traduis ce livre, Alda Merini n'aura jamais le prix Nobel si elle n'est pas traduite ». Parce qu'elle avait, il y a des Français d'ailleurs qui avaient proposé sa candidature. Le problème, c'est qu'Alda Merini n'avait pas été traduite. Donc ça, c'est un, voilà, ça représente presque une impossibilité à avoir le prix Nobel. Et donc, il m'a dit, il faut traduire. Et je me suis dit, ben pourquoi pas. Ben, j'ai hésité quand même, parce que je savais que bon, Alda Merini, c'est quand même un grand auteur. Elle était vivante encore. Donc je me suis dit, oh là là, elle va me massacrer. Enfin bon, parce que c'était pas quand même un personnage facile, surtout par rapport aux femmes, enfin envers les femmes, c'était pas simple. Et puis, j'ai traduit, j'ai trouvé un éditeur, ce qui n'était pas non plus simple, n'a pas été simple, mais j'ai trouvé un éditeur qui ne regrette rien et qui a donc décidé aussi de publier Délire amoureux, ce qui est quand même... Donc ça, c'est aussi important. Elle l'a su. Donc le livre est sorti en juillet 2009, donc il était prévu que je la rencontre, et puis elle est morte, donc le 1er novembre 2009. Mais voilà, mais bon, en même temps, traduire un livre, donc ce livre, c'est justement, elle a dicté ses poèmes à Angelo Guarnieri, qui est donc psychiatre, qui est devenu son ami, parce qu'il est poète aussi, mais en même temps, c'est très curieux, parce que Angelo Guarnieri, d'accord, est psychiatre et poète, mais il a fait partie de la réforme Basaglia, ça a été un psychiatre voilà, de psychiatrie démocratique, mais malgré tout, Alda Merini, elle est poète, mais aussi elle a été internée, elle a été malade, elle a été victime, enfin, il a été psychiatre, ben quand même, il a pas été bourreau, mais enfin, il y en a beaucoup qui l'ont été dans son métier. Alors, cette rencontre, je l'ai trouvée très intéressante et elle ne lui épargne rien. Et en même temps, les mots sont un pont, sont la paix aussi. C'est comme ça, c'est pas le pardon, c'est encore plus que ça, quoi. Voilà, c'est accepter l'histoire et aller aussi au-delà. Et je pense qu'Alda Merini a fait, par rapport à la réforme psychiatrique, et à la psychiatrie telle qu'elle a été et telle qu'elle continue à être pratiquée dans beaucoup d'endroits, elle amène aussi l'humain, pardon, je ne saurais encore plus pardon que pardon, quoi. C'est une réflexion, la poésie, c'est quelque chose qui va au-delà, et ça c'est aussi la richesse de la poésie. Et aussi peut-être les choses qui ne plaisent pas tellement. Et donc l'enfermer, la poésie, ça a aussi un sens. Je crois que là aussi, elle parle de l'enfermement de la poésie. Pas seulement de elle en tant que femme, mais on disait, la poésie est enfermée aujourd'hui. C'est le fait que de dire poésie, ça veut dire que ça va être chiant, que ça va être... on va s'endormir, qu'il n'y a rien de piquant qui va se passer. C'est faux, quoi. Donc là aussi, je crois que Alda Merini... En plus, elle le dit dans Délire amoureux, c'est être poète dans la société, c'est être quelqu'un d'absolument inutile. Or, ce n'est pas le cas, et elle le revendique. Et en cela, elle est vraiment poète jusque du début à la fin, quoi. Donc, voilà, ça c'est... Alors, donc, je vais reprendre. J'ai tout de suite compris qu'il allait falloir souvent chercher le mot en traduisant Alda Merini. Aller voir d'où il vient, quel détour il a pu faire et pourquoi, deviner où il a l'intention d'aller, ce qu'il peut aussi devenir dans ce monde qui brasse les mots comme on brasse l'air. Donc j'ai compris qu'il allait falloir souvent choisir entre un mot et l'autre, donc en tant que traductrice, comprendre ce choix, m'en défendre et aussi l'assumer. dès le début, c'est imposé à moi de faire corps avec la poésie de Hilda Merini. Je ne savais pas qu'il allait intervenir sur le corpus, donc c'est très intéressant comment finalement on se rejoint. Parce qu'on n'a pas du tout, on ne s'est pas du tout dit comment on allait intervenir aujourd'hui. Hein. Et quand il m'a dit je parle de corps, j'ai dit, ah, ben, moi aussi je parle de corps, donc c'était assez... Donc de faire corps avec la poésie de Hilda Merini et de courir le risque de donner à sa poésie française son propre rythme et pas le mien, ni celui de la langue française. Donc ça a été pour moi très compliqué, ça aussi. Enfin, c'était très compliqué parce que j'ai dit, je vais me faire tuer, ils vont me massacrer. Enfin, j'ai demandé à l'éditeur de me soutenir dans ses choix. Bon, donc après, bon, ça s'est plutôt bien passé. Donc c'est un corps à corps avec les mots, mais aussi avec l'auteur. Et donc, ça, pour moi, ça représentait un vrai défi. Donc, de toute façon, je n'aurais jamais décidé de traduire Hilda Merini si Angelo, qui est vraiment un ami, ne me l'avait demandé. Quoi. Enfin, franchement, je crois que j'aurais jamais, je n'y pensais pas parce que je n'aurais jamais osé. En fait, il y a aussi, c'est un personnage important, c'est une femme qui est capable de t'envoyer sur les roses facilement. Enfin, bon, même si elle n'est plus là, elle est toujours là quand même. Hein. Donc, voilà. Alors, décider de traduire Delirio Amoroso a représenté un autre défi. Parce qu'en fait, tu passais du poème à la prose, et tout en restant dans la poésie. Alors, moi, mes enfants sont sportifs, donc du sport, j'en ai en veux-tu, en voilà. Donc, si j'ose comparer le poème à un 400 mètres, la prose de Hilda Merini est de l'ordre du marathon. Donc, ça veut dire que le rythme est totalement différent. Enfin, pour moi, je parle en tant que traductrice, hein. Que l'attention du traducteur doit rester à son maximum jusqu'à la fin, parce qu'il n'y aura aucune pause possible. Donc on peut souffler entre un poème et l'autre, et encore, mais on ne peut souffler qu'à la fin du texte en entier. L'histoire qui commence aura une fin ou une non-fin, peu importe, mais ce qui va se nouer et se dénouer entre ces deux points va tenir tout l'édifice. Et Hilda Merini a une maîtrise extraordinaire de la structure du texte. Rien n'est là par hasard. Chaque mot est une pierre angulaire. Parce que Hilda Merini connaît les mots. Elle en sait long sur eux. Et elle en a une connaissance extraordinaire. Elle est savante, elle est sauvage, elle est fragile et elle est courageuse. Mais c'est une femme, elle est savante, elle est intelligente, ça ne veut rien dire. Elle sait. Sans doute aussi folle, mais d'une folie, enfin qu'est-ce que la folie aussi? En italien, il y a folie, il y a pazzia. La folie, si on n'est pas fou, on n'avance pas hein, dans la vie. C'est-à-dire, si on n'ose pas, si on ne tente pas, etc. Et si on n'a pas le courage ben, d'aller vers ce qui est nouveau, la pazzia, c'est quelque chose, c'est différent. La pazzia, c'est le pathos qui est intervenu, c'est une espèce de no man's land où on finit et dont on ne revient pas. La Merini, elle est revenue quand même. Elle est revenue. Et en fait, elle est passée de l'autre côté parce qu'elle y a été traînée aussi. La folie s'est déclarée à l'hôpital psychiatrique, elle le dit dans la Pazza della Porta Canto. Non, dans la Diario di una diversa. C'est-à-dire qu'elle est devenue folle le jour où elle a été internée. Ça, oui. Avant, bon, elle a pété un câble, enfin bon, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, hein, j'en peux plus, j'en ai marre, je suis dépressive, je t'envoie... Voilà, elle s'est disputée avec son mari, apparemment, c'est ce qui s'est passé, elle lui a cassé une chaise sur la tête, mais parce qu'il rentrait à n'importe quelle heure, et puis il devait pas être non plus très... comment dire, il avait quand même des aventures, enfin, il était pas très fidèle, elle, ça la rendait folle, hein, c'est le cas de le dire, enfin bon, et son mari, enfin bon... Et ils se sont disputés, et puis elle a fini à l'hôpital psychiatrique quand même. Donc, chacune de nous, moi en tant que femme, ou peut-être même... Enfin, c'est le genre de choses qui peut arriver. Hein, on peut se mettre très en colère à un certain moment, et puis prendre une chaise et la balancer sur l'autre, et finir après 20 ans à l'hôpital psychiatrique, ça fait lourd payer quand même. Hein, voilà. Elle a écrit, Hilda Merini, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, elle a arrêté d'écrire pendant les années d'internement, puis elle a écrit de nouveau jusqu'à la fin de sa vie. Mais elle n'a rien écrit pendant les années d'internement. Ce n'est pas l'internement qui a poussé Hilda Merini à écrire. L'internement l'a poussé à se taire, ce qui est différent. Hilda Merini, c'est quand elle a pu retrouver l'hôpital psychiatrique, lui a enlevé la parole, lui a retiré la parole. Et C'est parce qu'elle est sortie. Elle est sortie grâce aussi à Vasal, à la loi, à cette loi qui a impliqué mais une bataille en Italie incroyable, mais pas seulement une bataille au niveau médical, mais aussi une bataille politique. Parce que la démocratie chrétienne était absolument contre cette réforme. Il faut savoir aussi que dans les hôpitaux psychiatriques, en Italie, les personnes, toutes les personnes qui étaient internées, hospitalisées, avaient une pension d'invalidité qui finissait qui n'était pas utilisée. Enfin bon. Et en plus, ce sont des personnes qui votaient quand même aussi. La plupart, alors, la plupart des hôpitaux psychiatriques étaient gérés par des bonnes sœurs. Enfin, c'était les bonnes sœurs qui étaient le personnel préférentiel. Et à l'époque, en Italie, on votait en mettant une croix. Enfin, ça, c'est des choses que moi, j'ai entendues. Donc, c'était facile aussi de mettre des croix sur telle ou qu'importe, hein, que ce soit alors la démocratie chrétienne ou le Parti communiste italien, qu'on pousse les gens à mettre une croix sur l'un ou l'autre, ça n'a aucun sens et c'est profondément non démocratique. Donc c'était... Et puis ces hôpitaux psychiatriques fonctionnaient complètement en autarcie. Ils avaient tout à l'intérieur, tout. Ils avaient même des potagers, ils avaient le linge. Enfin, c'était des endroits magnifiques, hein, parce qu'ils ont été construits à la fin du 19e siècle, avec des bâtiments absolument extraordinaires. Mais c'était un lieu de contrôle et puis aussi un lieu financier très important et aussi politique. À Gênes, il y en avait deux d'hôpitaux. Il y avait deux hôpitaux psychiatriques, un à l'entrée de Gênes et un à la sortie de Gênes, Cogolette et Quart, et qui sont maintenant, qui ont été fermés tous les deux. Mais ce ne fut pas simple. Donc Alda Merini a été poète toute sa vie, elle a été poète même quand elle s'est tue, elle a protégé la parole en mettant son corps entre eux et elle. Et en même temps, ce corps défendant, en suppliant le désir d'amour et d'enfantement, a pris toute la mesure de sa propre sacralité. Sans lui, l'âme serait perdue. L'âme ne serait même pas, car elle ne sentirait rien, n'entendrait rien, ne goûterait rien. L'âme serait condamnée à une éternité sans mesure, sans salut, alors que le corps lui revient à la terre. Il ira nourrir une armée d'insectes et d'humeurs, deviendra une ruche, s'élèvera dans les airs, accroché peut-être aux ailes d'un papillon. Donc tout d'un coup, enfin, moi ce que j'ai ressenti dans les textes de Alda Merini, où elle parle beaucoup de l'âme, mais c'est tout d'un coup l'importance du corps. Et moi, ça m'a donné envie enfin, de me dire, mais moi aussi j'ai un corps, quoi. Je ne suis pas que quelque chose d'abstrait. Ce corps, oui, bien sûr, il pourrira, mais il est là, et sans lui, ben, la vie n'est pas possible. Et l'âme ne pourrait pas peut-être vivre ce qu'elle a à vivre. Donc c'est le corps qui donne voix, qui donne sa voix à l'âme, et c'est son corps que Alda Merini offre dans ce texte. C'est lui qu'elle abîme, qu'elle défend, qu'elle aime, qu'elle rejette, qu'elle rattrape, et que l'ange, à un certain moment, vient recueillir dans le caniveau. Parce que ce corps, son pauvre corps, est sacré. Et c'est à notre corps, donc moi j'en reviens à nous, si malmené aussi par la violence, par les guerres, enfin par tous les corps, la pollution, l'indifférence, les mensonges, qu'elle nous invite à revenir, pour enfin l'aimer. Et Délire amoureuse, donc Délire amoureux, est un chant d'amour, même si parfois d'un amour douloureux, même si plein de cette injustice des hommes et donc de Dieu. Et c'est aussi une certaine reconnaissance pour cette folie qui l'habite et qui n'est qu'une rose comparée à la violence qu'elle génère chez les autres. Cette nécessité qu'ont les normaux, entre guillemets, d'enfermer, de violenter, d'abrutir les comportements subversifs, étranges ou divers. Voilà, donc j'ai fait corps avec la poésie de Alda Merini parce que les mots ont eux aussi un corps et des racines si profondes que la terre toute seule ne pourrait pas les accueillir toutes. C'est pourquoi l'art est nécessaire, parce qu'il crée d'autres mondes et il élargit l'espace. Donc moi, voilà, je vous invite à découvrir les mots de Alda Merini parce que elle les a travaillés sans relâche, y compris dans le silence douloureux des asiles psychiatriques. Et c'est avec ses mains qu'elle les a rendues à la lumière. Il y a ce côté de l'artisan. C'est Camus qui disait, les écrivains sont des artisans. Ils travaillent avec leurs mains. C'est avec leurs mains qu'ils rendent les mots. La beauté de sa poésie et la nature de la vie dans le mystère de son éternité. Elle y revient beaucoup aussi à ça. Et elle, poète, a réussi à faire entendre cette beauté à tous. Sa poésie n'est pas restée dans les limbes où le XXe siècle a enfermé la poésie, donc tu en as déjà parlé. Elle l'a libérée. Et c'est pour ça que tant de personnes l'aiment. Et c'est pour ça aussi que l'establishment ne l'aime pas trop. Alda Merini rend la sacralité...
Les universités non plus.
Voilà. Voilà. Alda Merini rend la sacralité à l'homme, la part divine des origines, dans le bien et dans le mal. Ces mots sculptent en continu de nouveaux horizons. Traduire Alda Merini a signifié accepter de la regarder naviguer sur ses cordes avec sa douloureuse liberté, sans jamais essayer de la sauver. Sa poésie oblige à accepter sa mort chaque fois qu'elle veut mourir et accepter sa naissance chaque fois qu'elle veut naître. J'ai donc avancé dans ce travail avec beaucoup d'humilité sur la pointe des pieds, comme on entre dans un lieu sacré. J'ai essayé d'offrir Alda Merini aux Français. J'ai voulu montrer ses mots et aussi ses racines et leurs racines qui se mêlent et nous emmêlent. Parce que les racines d'Alda Merini et les racines de ses mots sont comme les arbres, beaux, inquiétants, énigmatiques, sensibles et menteurs. Platon disait « Or les poètes de la cité ». Si beaucoup de Platon s'est perdu au cours des siècles, sa sentence sur les poètes n'a jamais cessé de faire des émules. Parce que la poésie interroge, mais encore plus, elle surprend, elle incite, elle travaille, elle révolutionne. Elle pousse au-delà des limites, donc des frontières, elle les abolit même. En cela, elle est sensationnellement politique et dangereusement politique. De police, l'homme dans sa cité. La première bombe tombée à Sarajevo a détruit la cible stratégique de la bibliothèque. Ce jour-là est partie en fumée la preuve que les différences sont la grande richesse de l'homme et que dans les livres, on vit tous ensemble, on se mélange sans vergogne. Le poète, n'en déplaise à Platon et aux autres, est ici et aussi là. Il est hors de la cité et dans la cité. La poésie est partout. Et donc moi aussi, j'ai repris le truc. Le poète qui voit tout est accusé de liberté de pensée, a écrit Alda Merini. Voilà. C'est tout. C'est ce que je voulais vous dire. Et puis là, on va vous lire un tout petit passage où on va faire un méli-mélo de français italien.
Tornare sul naviglio dopo quattro anni d'assenza mi è stato più che doloroso, disumano.
Revenir sur le naviglio après 4 ans d'absence a été plus que douloureux, inhumain.
Essere sradicata dal proprio ambiente, non trovare più radici, né patria, né letto d'amore.
Être déraciné de son environnement, ne plus trouver de racines, de patrie, ni de lit d'amour.
Quel letto di tacito desiderio, il letto delle nascite, a Taranto, è stato buttato, per eufemismo, e sono tornata al mio, diventato letto psichiatrico.
Le lit du désir tacite, le lit des naissances, à Taranto, a été jeté par euphémisme, et je suis revenue dans le mien, devenu lit psichiatrique.
Le bende che mi fasciano sono terribili e gementi, e da 2 anni evado solo per ritornarvi.
Le bande qui m'enveloppent sont terribles et gémissantes, et depuis 2 ans je m'en évade seulement pour y revenir.
Il naviglio, stanco, riottoso, difficile, antico, stracarico, colpevole, puttanesco, drogato di sogni, ritoccato dalla mano sapiente del consumismo, oggi sembra un'allegra prostituta ballonzolona.
Le naviglio, fatigué, récalcitrant, difficile, antique, surchargé, coupable, putassier, drogué de rêves, remanié par la main savante de la société de consommation, ressemble aujourd'hui à une joyeuse prostituée qui se trémousse.
Ricordo invece le pietre nude, i paradossali momenti della follia, le bestemmie, le cicche delle lavandaie, i miei figli che languivano nella fame, le autoambulanze che mi portavano via e mi riportavano indietro a seconda degli umori.
Je me souviens des pierres nues, des paradoxaux moments de folie, des jurons, des mégots, des lavandières, de mes enfants qui languissaient dans la faim, des ambulances qui m'emmenaient, me ramenaient selon mes humeurs.
Le turbe dei miei scolari, il mio pianoforte.
Les troubles de mes élèves, mon piano.
Le canzoni libere, gli osanna dei demoni.
Les chansons libres, les osanna des démons.
Il tavolo vuoto di amicizie e l'ansia di una madre che stava per partire per un eremo e ne era consapevole.
La table vide des amitiés et l'angoisse d'une mère qui allait partir en ermitage et le savait.
Quanto amore e solitudine.
Che d'amour e che de solitude.
Quale sparuta angoscia in quella divinazione fallica che nemmeno la chiesa poteva sciogliere.
Quelle angoisse étriquée dans cette divination phallique que même l'Église ne pouvait résoudre.
Il naviglio, struggente come una lacrima.
Le naviglio, poignant comme une larme.
Il mio viso, una grande lacrima del naviglio.
Mon visage, une grosse larme du naviglio.
La gente al mio ritorno mi ha riconosciuta, soppesata, dileggiata, offesa, respinta e riaccettata.
À mon retour, les gens m'ont reconnu, jaugé, raillé, offensé, rejeté et réaccepté.
Dovevo chiedere scusa a ogni donna di malaffare, ad ogni lavandaia, ad ogni oste, di essere una poetessa.
Je devais demander pardon à chaque femme de mauvaise vie, à chaque lavandière, à chaque hôte d'être une poétesse. Voilà.